Vous savez, un des signes que Dieu veut qu'on discute de quelque chose, c'est quand on n'a pas envie d'en parler. Il y a des trucs qu'on dit, ah non, Seigneur, pas ça. On pourrait parler de choses un peu plus légères, je sais pas, rigoler, s'amuser un petit peu. La louange, voilà, la louange c'est parfait, faire de la musique. On pourrait discuter sur ça, ça, ça serait parfait. Mais Jésus, il n'est pas venu pour nous divertir, il est venu pour nous faire grandir. Comme disait le chant précédent, il est venu pour nous faire grandir. Et puis il y a des choses qu'on apprend dans la présence de Dieu qu'on ne peut pas apprendre avec les hommes. Il y a une profondeur dans le parcours intérieur que Dieu nous invite à prendre qui vaut vraiment la route. Il peut être parfois semé de larmes, ce parcours, mais il produit vie, il produit liberté. Dans un psaume, c'est marqué « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ceux qui recherchent sincèrement le Seigneur trouvent des chemins tracés par le Seigneur dans le plus profond de leur cœur. » Et ça peut arriver, comme dans l'image de la pub de cette série, que ça soit une vallée un peu sombre, parfois semée de larmes, mais ça peut devenir une source, un lieu de source, un jardin verdoyant, comme celui de Georges et Dominique où je suis allé une fois ce matin pour préparer une partie de ce message, cette semaine, pour préparer une partie de ce message. Si en pensant à ce thème, le pardon, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dérange, où tu dis, pas ça Seigneur, pas ce point-là. Peut-être que c'est un chemin que Dieu a tracé dans ton cœur pour que tu chemines. Et je t'invite à l'emprunter dans cette série, même s'il peut y avoir des pleurs. Dieu peut transformer un endroit rocailleux comme celui-là dans un lieu plein de sources. Dieu peut faire que ça devienne un lieu de bénédiction. Et la Bible nous invite à ne pas fuir ce chemin-là, celui qu'il trace dans notre cœur. En Ésaïe, c'est marqué. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Dans ce passage d'Ésaïe, Dieu demande à ses auditeurs s'il est en train de parler à des enfants. Parce qu'il dit, j'envoie ma parole qui veut apporter du repos, mais vous ne voulez pas écouter. Donc c'est comme des enfants, on dit, on va se coucher, puis ils ne veulent pas. C'est l'heure de la sieste, et puis il y a des pleurs et des crises. Je ne pense pas qu'il pensait à ça, mais voilà. J'envoie ma parole qui veut apporter du repos et vous ne voulez pas écouter. Vous êtes comme des enfants, c'est ce que Dieu dit. Et le texte dit qu'il préfère se réfugier dans la fausseté et le mensonge. Le texte dit comme ça d'Ésaïe. Vous dites, quand le fléau débordé passera, encore un, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et un mensonge pour abri. Le peuple répond ça. Et Dieu leur dit alors, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. La tempête va emporter ses constructions. C'est ce qu'Ésaïe dit. Et Jésus s'est peut-être inspiré d'Ésaïe pour raconter l'histoire des deux constructeurs. Vous savez, celui qui, parce qu'il écoutait les paroles de Jésus et les mettait en pratique, avait construit sa vie sur du rocher solide. Et celui qui, parce qu'il avait écouté les paroles de Jésus et n'avait pas mis en pratique, avait construit sa vie sur du sable. Il avait construit sa vie sur de la fausseté, sur quelque chose qui n'est pas stable. Au lieu d'écouter la vérité que Jésus enseignait, il acceptait de croire au mensonge. Il a construit cet abri de mensonge. Pendant cette série, n'écoutez pas seulement ce qui est dit, mais ce que Dieu vous révèle au fond du cœur. C'est ça qui est un rocher solide. Vous savez, c'est quand on lit quelque chose ou on écoute un message et une parole produit une explosion ici dedans. Des fois, c'est même en dehors du thème, des fois, qu'il y a une petite explosion qui se passe ici dedans. C'est l'Esprit de Jésus qui parle, qui révèle quelque chose. Ça porte quelque chose ici dedans. On sait que c'est lui. On est convaincu que c'est vrai, même si on n'a pas envie d'écouter, des fois. La parole de Jésus révélée dans notre cœur, quand on l'accepte, quand on s'appuie sur cette parole-là, c'est là qu'on construit notre vie sur du solide. C'est ça, la parole de Jésus qui est révélée dans notre cœur. C'est ça, la pierre éprouvée de grand prix, solidement posée, qui est dit à Isaïe. C'est là qu'on n'a pas hâte de fuir, même si la tempête vient. Donc au fil de ces quatre dimanches, si l'Esprit vous révèle quelque chose, prenez cela, bâtissez dessus, construisez votre semaine, construisez vos actions sur cette parole que Dieu vous a dit, que Dieu vous a révélée dans votre cœur. Alors le texte d'Ésaïe a dit que la grêle et l'eau ont emporté les refuges qu'on a construits de la fausseté et du mensonge. Vous savez quel est un abri qu'on construit quand on parle d'offense et de pardon ? Un des abris qu'on construit, c'est « je ne suis pas offensé ». Nier que quelque chose nous a blessé, c'est comme si on était un peu plus spirituel. Parfois, ça dépend aussi de tempérament. Des fois, on réagit tout de suite, et d'autres fois, on a été blessé, mais on se tait, on fait semblant que rien ne s'est passé. C'est comme si pour être une bonne personne, on ne pouvait pas avoir de sentiments négatifs. Les chrétiens sont très forts à ça, d'éliminer des sentiments négatifs. C'est comme si, pour être spirituel, on ne peut pas être triste, on ne peut pas être dérangé par quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'on soit tout le temps en paix avec des bons sentiments. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on croit à ça, c'est comme si on construisait un refuge de fausseté. Je mens à moi-même. C'est un abri de mensonge. Je dis, je n'ai pas été blessé, c'est rien du tout, c'est juste une bêtise. On rationalise pour pouvoir cacher la douleur. Ma sœur Cindy, quand elle était petite, mes parents racontaient qu'une fois, elle était tombée dans une place de jeu, et puis elle avait mal au bras, puis elle a pleuré un moment, mais après, elle a arrêté de pleurer, donc ils ont continué. Elle est tombée une deuxième fois, elle a de nouveau pleuré sur le même bras, et puis après, elle a arrêté de pleurer. Une troisième fois, elle est tombée sur le même bras, et là, elle a pleuré longtemps, et cette fois, ils ont dit, on va l'amener chez le médecin à l'hôpital. Puis ils ont fait la radio, elle avait 3 fractures dans des endroits différents, petites, fractures dans des endroits différents. Donc elle avait déjà eu la fracture la première fois qu'elle était tombée, puis la deuxième aussi. Mais elle avait arrêté de pleurer les autres fois. C'est en effet, ma sœur Cindy l'aînée, elle est une fille très forte, elle y va, elle est une officière au Brésil, s'il y a des oppositions, qu'elle sait qu'un truc c'est de la volonté de Dieu, elle y va quand même, si elle n'a pas d'équipe, si elle est toute seule pour faire une tâche, un service pour Dieu, elle le fait quand même, et je pense que ce caractère était déjà là en tant qu'enfant, elle était aussi forte. Donc, il se peut qu'elle a pleuré un petit moment, mais après elle s'est dit que ça allait, et finalement ça a caché une blessure qui était là, qui devrait être vue dans ce bras-là. Comme le texte dit, on peut aussi construire cet abri de mensonges. On construit ce mensonge en disant « Ouais, je n'ai pas été blessé, ce n'est pas si grave que ça, ça va aller. » Mais il y a déjà quelque chose qui est là, dans les bras ou dans notre cœur. Avec Clarissa, on a récemment reparlé d'une grosse crise qu'on a eue à la période de fréquentation. J'étais allé 10 jours, un peu plus, dans un camp aux États-Unis de musique. Et puis, au retour, c'était peut-être le premier soir qu'on s'était rencontrés pour discuter. J'ai déballé tout plein de trucs. Toute ma frustration cumulée dans la relation, tout plein de trucs, j'étais pas d'accord, que j'avais cumulé pendant plusieurs mois, et j'avais eu le temps de réfléchir pendant que j'étais loin, tout d'une seule fois. Et bien sûr, Clarissa était très blessée. Parce que pourquoi tu ne m'as pas dit au fil des jours, on aurait pu résoudre une chose à la fois, on aurait pu changer une chose à la fois de la relation. Tu arrives maintenant, on ne s'est pas vu pendant 10 jours, je suis super content et tu déballes toutes ces mauvaises choses d'un seul coup. Et le grand problème, c'était de se dire, ça ne m'a pas blessé, c'est pas grave. Et ça reste de toute façon comme le bras fissuré de ma sœur. On peut cacher avec du sable, mettre des trucs par-dessus, rationaliser, mais on est des êtres émotionnels. Dieu nous a fait comme ça. Même nous les hommes, hein, on est des êtres émotionnels et la blessure reste, même si on veut la cacher. Et on peut le voir par les effets. On devient froid avec l'autre personne, on s'éloigne, on ne veut plus faire des choses avec, on ne veut plus être au même endroit que cette personne, on n'a plus de joie quand on la voit. Si vous ressentez ça envers quelqu'un, Dieu a envie de travailler là-dessus. Ça vaut la peine de prendre le parcours. Ça sera votre vallée des pleurs, comme c'est l'image. Tu peux passer encore une fois la diapo. Si ça continue trop longtemps, ces petites blessures, ça finit par exploser tout d'une seule fois. On dit tout d'un coup plein de choses blessantes, il y a de la haine qui nous envahit, ou alors tout commence à nous irriter. Toutes les petites choses, tout ce que les gens font, toutes les activités, ça nous irrite, ça nous agace. Ça commence à voir que ça prend une ampleur. Et après, on finit par se dire, j'abandonne tout. J'arrête tout ce que je faisais, je m'éloigne, je me cache dans ma grotte, parce qu'il y a trop de petites choses cumulées qui n'ont pas été dites et résolues. Jésus l'a dit comment il fallait faire pour ces situations, pour construire sur le rocher, pour se maintenir solide lors de ces tempêtes. Et on va y arriver pour découvrir ce qu'il a dit. Mais avant, je veux aussi montrer une autre manière de réagir qui n'est pas non plus construire sur le rocher. C'est celui qui réagit tout de suite agressivement. C'est l'attitude qui dit « ça m'a enfoncé, je dois réagir tout de suite pour me protéger ». Il y a effectivement beaucoup de situations où on doit réagir tout de suite. Par exemple, à l'école, quelqu'un se moque d'un autre en tant qu'un représentant de Dieu de justice, on est encouragé à réagir tout de suite et dire « je ne suis pas d'accord, j'aime beaucoup Augustin, il n'est pas bête, je ne suis pas d'accord que vous le traitez comme ça ». On a le droit de réagir tout de suite, on a même le droit d'être un peu agressif, une certaine agressivité pour protéger le plus faible. On peut réagir tout de suite. Ou en tant que parent, si notre enfant passe par-dessus notre autorité ou nous insulte ou fait une crise, on a le droit et même le devoir de réagir tout de suite, de corriger. On a le droit de réagir tout de suite, par exemple, dans ces situations. Mais dans la majorité des situations, dans les conflits les plus récurrents de tous les jours, le conseil biblique n'est pas de réagir tout de suite. Voilà comment Jésus a dit qu'il fallait agir pour construire sur du solide dans ces relations. Que vous soyez plutôt du style à garder l'offense, à la cacher, à la rationaliser, comme moi, ou alors à réagir tout de suite et puis exploser comme d'autres personnes. Jésus l'a dit comme ça. « Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. » Matthieu 18, 15. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, selon Jésus, la première chose, c'est reconnaître que ça fait mal. Ce n'est pas nier la douleur. Hein? Ce n'est pas biblique. Non, il dit « va traiter la douleur. » Ne la cache pas. Ne fais pas semblant que tout va bien. Si ton frère t'a fait du mal, ça veut dire parfois tu vas te sentir mal parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Tu vas te sentir mal. Donc, être spirituel n'a rien à voir avec ne pas avoir des sentiments négatifs. Pendant longtemps, j'ai cru à ça et j'ai construit cet abri de mensonges. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir blessé. Il faut toujours pardonner automatiquement. Donc, c'est tout bon. Personne ne me blesse. Je vais bien. Et ce n'est pas vrai. Par contre, ce que j'ai dit pendant le week-end de poste, pendant le jeu, c'était une plaisanterie. On a fait un jeu où il fallait dire toujours, jamais ou les deux. Et puis, la première question, c'était appuyer ses officiers. La réponse, c'était toujours. Ça, c'est bon, je maintiens. La deuxième question, se moquer de la taille de Thierry. Là, la réponse, c'était jamais, mais c'était une plaisanterie. Vous pouvez vous moquer de ma taille, ça ne me blesse pas. Je me moque moi-même, ma femme se moque de ma taille. Et puis, Si vous me demandez comment va la température ici en haut, je vais dire la température va bien. Ce qui est difficile, c'est le manque d'air en altitude. C'est ça que je dis. Non, mais reconnaître sa douleur, c'est la première chose que Jésus enseigne. Si on veut écouter ce qu'il dit et mettre en pratique. Mais ça ne termine pas là. Maintenant, ça devient plus difficile. C'est ce que dit le prophète. Oui, va le voir. Va trouver la personne. Et ce « va trouver la personne » signifie plein de choses. D'abord, ça veut dire ne pas raconter à tous tes amis, déverser ta frustration sur tout plein d'oreilles différentes. C'est pas ça. Je dirais que ça peut être positif d'avoir une personne avec qui on peut partager ces choses, mais on n'a pas besoin de déballer à tout plein de monde. Mais alors là, il dit « va trouver celui qui t'a fait le mal. Va trouver cette personne-là. » Ensuite, ça ne veut pas non plus dire croiser les bras et attendre que l'autre vienne demander pardon. Dans le couple, c'est souvent comme ça. Non, on veut que l'autre marque qu'on a mal et que lui, il vienne demander pardon. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus a enseigné. Des fois, l'autre, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. L'autre a changé et puis on est perdu. Pourquoi il a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on ne sait pas. Troisièmement, ça ne colle pas toujours avec cette réaction tout de suite qu'on peut avoir. Clarissa avait déjà raconté une fois qu'un de nos officiers au Brésil lui avait pris à part et lui avait corrigé sur le fait de ne pas corriger son mari devant tout le monde. Un des officiers lui avait pris à part pour lui dire ça. Ne corrige pas ton mari devant tout le monde. Elle a déjà partagé ça ici. Et je peux vous dire qu'elle a accepté cette correction que cet officier avait fait et elle met vraiment en pratique. Très souvent, dans nos relations, ça ne se passe pas bien si on réagit tout de suite, même dans les amitiés. Hein. Ça augmente le conflit, les deux côtés sont encore plus blessés. Chacun va essayer de se défendre et puis voilà. Si ton frère te fait du mal, va le voir. Le « va le voir » suppose que c'est un autre moment. Va le voir. Va, un autre moment, le voir. Et finalement, ça exclut aussi l'idée que le pardon biblique, c'est se laisser faire. C'est pas se laisser faire, hein. Je pense qu'on interprète mal l'image que Jésus a utilisée de donner l'autre face. Il était en train de parler de vengeance, là. Pas vraiment de pardon. Dans le passage, il parle de faire du bien à ses ennemis pour aller plus loin que l'Ancien Testament. Il est toujours en train de dire, l'Ancien Testament a dit ça, je vous demande d'aller plus loin. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà bien parce que il y avait cette règle qui établissait ne fais pas une vengeance plus grande qu'on a la tendance de faire. Ah, tu m'as volé un mouton, je te vole 5 alors. Et puis ça augmente le conflit parce que chacun va vouloir faire plus que l'autre. L'œil par œil et dent par dent, ça voulait dire ça. Juste, si quelqu'un a volé un mouton, on va reprendre un mouton de l'autre pour te rendre. Pas plus. C'est pas pour escalader la vengeance, la colère. Et Jésus, en commentant sur ça, sur la vengeance, eh bien, il avait dit, pour aller plus loin encore, ne te venge pas. C'était ça ce qu'il voulait dire. Mais c'est pas vraiment à propos du pardon, ni se laisser faire. Là, dans ce verset, il dit, va résoudre la raison de la blessure. Ça rejoint un peu ce que les psychologues ont dit. Va résoudre la raison de la blessure. Le prochain dit, fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. Donc, seul avec lui, choisis un bon moment. Le texte dit, s'il te fait du mal, donc la reproche que tu vas faire seul, c'est, ça m'a fait du mal et je vais te dire pourquoi ça m'a fait du mal. Et puis, c'est ça la reproche. Décrire ce qui s'est passé, dire les sentiments, dire les attentes. Hein, je voudrais que ça soit comme ça la prochaine fois parce que je me suis senti comme ça et ça me fait sentir comme ça quand tu fais cette chose-là. Je dis par exemple, jeudi dernier, après que les enfants étaient au lit, Clarissa est venue me parler de quelque chose qui s'était passé mardi. Et je trouve que c'était très sage. Si elle avait dit le moment où j'étais en train de faire ce qui la gênait, ça allait générer un conflit inutile. Et en plus devant les enfants. Et je sais que le fait de devoir aller et dire quelque chose qui nous a blessés peut sembler de la faiblesse. Mais je vais lui parler juste de cette bêtise. C'était une bêtise. L'autre va penser que je suis trop sensible, qu'une chose si petite m'est blessée. Eh bien, si ça exige d'être humble, c'est encore mieux. Si on doit résoudre un truc et puis ça doit travailler notre caractère pour être plus humble comme Jésus, alors c'est encore mieux. Et je veux dire spécialement aux hommes, ou à ceux et celles qui sont déjà très blessés. Ésaïe a dit que celui qui prend la pierre n'aura point hâte de fuir. Donc si quelqu'un s'approche de vous pour exprimer quelque chose, ne fuyez pas ce genre de conversation. Si votre femme vient vous parler de quelque chose qui lui a blessé, si quelqu'un de l'église vient vous parler de quelque chose que vous avez fait qui lui a blessé, si un ami vient vous parler, ne fuyez pas. C'est biblique ce qu'ils sont en train de faire, d'aller vous parler sur cette chose qui les a blessés. Ils sont en train de mettre en pratique un commandement de Jésus. Donc prenez le temps d'écouter, de comprendre ce qui se passe, de comprendre le sentiment de la personne et de demander pardon, au moins d'avoir provoqué ce sentiment. Au moins d'avoir provoqué ce sentiment. Dans le conflit avec mon épouse que j'ai parlé, qu'elle est venue me parler jeudi, elle a, dans un domaine, elle avait trouvé que j'étais très réactif, et dans l'autre domaine, elle a trouvé que j'étais pas assez réactif, j'avais pas pris des initiatives pour un autre domaine. J'ai pu expliquer comment moi j'avais vu les choses, et on ne voyait pas de la même manière. Mais j'ai pu quand même demander pardon de ne pas avoir communiqué avant comment moi je voyais, pourquoi j'avais été vite réactif pour une situation et pas réactif pour l'autre. J'ai pu expliquer comment moi je voyais, demander pardon que je n'avais pas fait avant, et puis ça a causé ce conflit. Et puis, demander pardon aussi d'avoir causé ce sentiment. Ça, je peux demander pardon pour ça. Même si on avait vu d'une manière différente, et puis ça n'a pas changé. Elle continue à voir de cette manière, moi je continue à voir d'autres manières. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut demander pardon, au moins du sentiment qu'on a causé chez l'autre. Souvent, on peut demander pardon aussi par la manière dont ça a été fait. On continuerait à faire ce qu'on a fait, mais la manière aurait pu être différente et on peut demander pardon pour la manière dont quelque chose a été fait. Et c'est là où on est gagnant dans une relation. Jésus a dit, on gagne notre frère. En disant avec ça que l'amitié, elle peut être approfondie, la relation peut grandir. Un de ces cas s'est passé récemment dans notre communauté et j'ai demandé à la personne si je pouvais partager ce qui s'était passé de manière anonyme, elle l'a autorisé, donc j'aimerais partager, c'est quelqu'un de la communauté. Quelqu'un de la communauté dans une rencontre, dans une réunion, a fait un commentaire très simple, une plaisanterie contre quelqu'un d'autre, c'était dans un groupe. Donc la première personne avait fait cette plaisanterie et ça a blessé la deuxième personne. C'était quelque chose de simple. Pour quelqu'un d'autre, aurait pu être quelque chose de banal, c'est une plaisanterie. Mais la deuxième personne aurait pu dire, bof, on laisse tomber, quoi. C'est une plaisanterie. Mais non, la deuxième personne est allée trouver la première pour lui dire ce qui s'était passé et comment elle s'était vraiment sentie. Et heureusement, la première a très bien reçu. La première personne a demandé pardon. Et vous savez ce qui s'est passé? Après, cette première personne qui avait fait cette plaisanterie est venue me raconter et puis il a dit, la personne a dit, j'étais contente parce que je sais que dans cette relation, les choses seront dites. Si je commets une autre chose comme ça, il va venir me dire. Donc, c'est pas juste une amitié pour se dire des bonnes choses. C'est une amitié que je sais que c'est sincère. Il va venir me dire et puis on va résoudre et puis je sais que ça sera toujours OK entre nous. Donc c'est très positif et la première personne qui avait fait la plaisanterie a très bien vécu cela. Et puis elle a dit, ça a fortifié notre amitié. Je sais que c'est une vraie amitié, parce qu'elle est venue me dire, même si c'était une bêtise. Et je trouve ça, tu as gagné ton frère, ça gagne une relation. Ça construit une relation dans le rocher, comme Jésus l'a dit. Et c'est quelque chose de très simple, hein. J'ai juste pratiquement utilisé un verset de la Bible pour les situations les plus simples. Mais si on pratique réellement avec nos relations, beaucoup de choses changeraient. Dans nos mariages, dans nos amitiés, dans l'église. Maintenant, il y a des situations plus compliquées que ça. Il y a des situations où il y a peu de chances de dialogue. Il y a des situations où la blessure était beaucoup plus profonde. La Bible en parle aussi et la stratégie est différente. Des fois, on ne peut pas résoudre comme ça. Et puis, on va parler les prochains dimanches. Ça serait trop simpliste d'utiliser juste un message pour parler sur le pardon. On a pensé de le faire en quatre, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur ça. Donc, on verra les prochains dimanches. Mais pour ce premier message, je vous demande, est-ce que vous voulez construire votre vie sur le rocher, sur les choses que Jésus a enseignées, vos actions, vos décisions? Jésus a dit que pour le faire, il fallait écouter ce qu'il disait et mettre en pratique. C'était ça qui construisait la vie sur le rocher. Donc pour cette semaine, c'est juste ce petit verset que je vous laisse. Je vais le relire avant qu'on prie. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Merci Seigneur Jésus pour tes commandements, Seigneur, que tu nous donnes pour construire notre vie sur le rocher, sur du solide. Là, dans un endroit où la tempête ne peut pas détruire notre vie, où notre vie va résister, même s'il y a des grosses tempêtes qui viennent sur nous. Merci pour ce premier conseil si simple, mais souvent si difficile à pratiquer, de reconnaître qu'on a été blessé, même pour des petites choses, d'avoir le courage d'être suffisamment humble, d'aller trouver la personne, toute seule, de lui dire et de pouvoir souvent gagner une relation avec ce processus, Seigneur, d'approfondir des relations, de résoudre des conflits. Oui, c'est difficile, comme ta parole dit aussi dans le verset qu'on a lu au début en Proverbe. C'est très difficile, des fois, c'est une cité fortifiée de s'approcher de quelqu'un. Mais on veut essayer de mettre ta parole en pratique quand même, Seigneur. On veut se dire, je fais mes choix pour construire sur du rocher, sur ce que Jésus enseigne. Si ça ne marche pas, ce n'est plus de ma responsabilité. Je fais ce que Dieu m'a dit de le faire. Donne-nous le courage, aide-nous à être suffisamment humbles, Seigneur, pour exposer nos sentiments, pour les reconnaître aussi, et pour attendre le bon moment pour le dire. Amen.